101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
En ce moment, la majeure partie des patients qui se retrouvent à l'hôpital et en réanimation sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Le vaccin empêche quand même de se retrouver en réa, même si on est malade. J'entends déjà les gens dire « mais qu'est-ce qu'elle est, elle, pour me dire qu'il faut que j'aille me faire vacciner ?» Je suis personne, je suis juste une infirmière. Ouais, je vois des gens qui souffrent aujourd'hui, qui ont perdu des proches, qui ont perdu des amis, qui ont perdu des parents parce que ne voulaient pas se faire vacciner. C'est quand il est trop tard qu'on s'aperçoit qu'on aurait peut-être dû le faire.
Ces vaccins anti-Covid ne sont peut-être pas des solutions idéales et infaillibles, mais ça semble quand même fonctionner. Et c'est Anita, infirmière urgentiste, qui vous le dit. Mais avant de retrouver Anita dans quelques instants, autre voix connue dans cette émission, celle de Charlie, membre, comme Anita, du syndicat Sud Santé Sociaux Solidaires, Charlie qu'on retrouvera en fin d'émission.
Il y a eu un choix d'une violence extrême, de faire de la division, de faire de l'ostracisation, de faire de la violence sociale, de faire du tri, de venir stigmatiser. Il est impossible de pouvoir dire honnêtement que c'est une stratégie qui vise à gérer au mieux la pandémie. C'était un coup politique, c'est de la violence sociale qui a été rajoutée à la violence épidémique, et c'est sûrement pas avec un pistolet sur la tempe qu'on change la croyance des gens. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu gérer l'épidémie.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue dans cette conversation avec Charlie, Marc et Anita. Anti-vax, non. Anti-pass, oui. Salut Anita.
Bonjour JB. Je vais peut-être commencer par le début.
Ouais.
Je suis infirmière, je suis vaccinée. Pas parce qu'il y a l'obligation vaccinale, j'ai fait ce choix de me faire vacciner bien avant cette obligation. Et là, la semaine prochaine, je vais faire ma troisième dose. Je ne suis pas anti-vax. Au niveau du syndicat Sud Santé Sociaux, n'est pas anti-vax.
Il y a un tract qui est sorti au début de l'été où il disait
« Contre le pass, pour la vax ».
C'est ça. On est même plutôt en faveur d'une levée des brevets sur ce vaccin parce qu'on estime que toute la population au niveau mondial devrait avoir accès à ce vaccin. Nous, on en est déjà à la troisième dose. Il y a certains pays qui n'ont même pas accès à la première. Ben, d'un point de vue virologique, moi, je sais qu'en tant qu'infirmière, ayant fait des études là-dessus, un virus n'a qu'une seule mission, c'est d'infecter le plus de monde possible et de muter jusqu'à temps qu'il ait le moins de résistance possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en sommes à cette cinquième vague de contamination au niveau de la Covid. Continuons sur les bases. Le virus de la Covid existe bien. On le voit, moi je le vois. Je suis passée en réanimation, voir des collègues hier qui m'ont dit que la cinquième vague était là. Sur Tours, on avait déjà une vingtaine de personnes qui étaient réadmises en réanimation, alors qu'il y a peu de temps, il n'y en avait quasiment plus. Donc ce virus existe bien. Moi, je l'ai vu depuis le printemps 2020. J'ai vu des patients arriver aux urgences, n'arrivant plus à respirer, avec des scanners qui montraient une capacité pulmonaire qui était vraiment amoindrie, repartir en réa en étant intubé, ventilé, pour pouvoir réapprendre à respirer et puis espérer vivre tout simplement. Donc ce virus, il est bel et bien là, c'est pas une invention Big Pharma et compagnie, faut le prendre au sérieux. Il a contaminé des millions de personnes, il va en contaminer encore des millions dans le monde entier. Il faut apprendre à vivre avec en ce moment. En ce qui me concerne, la meilleure façon de vivre avec, ça serait de se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est au moins éviter toutes ces formes graves de pathologies qui peuvent être entraînées par la Covid. C'est quand on n'arrive plus à respirer, c'est quelque chose de dramatique. Se sentir complètement étouffé, essoufflé au moindre effort. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les services. J'ai vu des patients comme ça. On souffre presque avec eux. Quand le moindre souffle devient d'une difficulté innommable, c'est quelque chose de terrible. Le souffle, c'est la vie. Quand on est atteint de cette maladie sous ses formes graves, je dis bien sous ses formes graves, c'est juste pas possible pour les patients qui en sont victimes. Alors, bien sûr, on entend tout et son contraire.
Je suis ni médecin ni épidémiologiste, j'ai jamais ouvert un livre de médecine. Je suis particulièrement désarmé vis-à-vis de copines qui ont l'air particulièrement bien informées parce qu'elles ont lu, je ne sais où, qu'il aurait fallu faire un test sérologique et que quand on a des défenses immunitaires qui sont au maximum, on n'a pas besoin de vaccin parce que le corps fait lui-même le travail. Ben voilà, moi je suis pas médecin et je suis comme une poule devant un couteau. Je vois juste qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qui m'est dit. Mais évidemment, comme c'est pas mon boulot, je peux juste subir le discours de ces gens qui disent je fais du sport, je fais du yoga, je mange sain, donc j'ai pas besoin de vaccin parce que tout le monde n'a pas besoin du vaccin.
Le but, c'est de cette vaccination, comme de toutes les vaccinations. Il n'y a pas que la vaccination contre le Covid. C'est de ne pas contracter de forme grave de cette maladie. La plupart des gens qui ont été ou qui vont être contaminés par ce virus le seront sous la forme asymptomatique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas développer de signaux ou de signes de la maladie.
C'est ce qu'on appelle les porteurs sains.
C'est ça. Ils peuvent, en revanche, contaminer quelqu'un qui, lui, pourrait avoir une maladie autre ou un système immunitaire un peu moins performant et qui pourra, lui, se retrouver en réanimation, potentiellement. Ça peut être n'importe qui. Le voisin, ça peut être votre père, votre mère, qui est peut-être un petit peu plus malade, qui a un cancer ou quoi que ce soit. Et donc là, ça peut prendre des proportions assez dramatiques pour ces personnes-là. Donc, se faire vacciner, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'anodin.
Je reviens à mes copines là qui disent « Oui, moi j'ai un système immunitaire qui est au taquet et je respecte les gestes barrières et sanitaires, donc je suis un danger pour personne. »
Elles peuvent être un danger sans le savoir. Oui, les gestes barrières vont peut-être aider à protéger, mais c'est pas tout. On peut pas être à 100% dans le respect de ces règles des gestes barrières. Même moi qui suis aguerrie en termes de ce qu'on appelle d'asepsie, c'est-à-dire de gestes pour éviter de transmettre des virus, des bactéries, il y a toujours un moment où on est un petit peu moins vigilant. On ne peut pas être vigilant 100% 24 heures sur 24 pour ça. Et donc, il suffit d'avoir manqué un lavage des mains ou de ne pas les avoir lavés assez correctement. Et vous pouvez filer le virus à quelqu'un. Et peut-être quelqu'un à qui vous tenez. Donc, ça serait bête de lui filer une pneumopathie, c'est-à-dire une infection très grave des poumons, parce que on n'a pas voulu se faire vacciner ou parce que on a eu peur. Je peux comprendre la peur. C'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. C'est vrai que ce vaccin, on se dit que on a mis un an à le mettre en place. On n'a pas de recul ou quoi que ce soit. Il faut savoir que ce type de vaccin, ça fait des années que les labos travaillent dessus. Certes, là, y a eu plein de fric qui a été mis sur cette recherche parce qu'il fallait trouver une solution à cette pandémie et qu'il fallait essayer de trouver une solution pour soigner les gens et pour éviter que les gens soient infectés. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être mis plus de moyens sur ce vaccin et qu'on a cette impression qu'il arrive sorti de nulle part. C'est pas le cas. Donc, le vaccin est là. Pour l'instant, c'est un des seuls moyens qu'on ait vraiment de protéger un maximum de gens. Je peux comprendre qu'il fasse peur. C'est jamais très très agréable d'aller se faire vacciner. C'est pourtant pas le premier qu'on ait eu comme vaccin. On a eu plein de polémiques sur plein d'autres vaccins. Et puis finalement, c'est rentré dans l'ordre. Je rappelle qu'il y a plein de vaccins obligatoires en France. On n'est pas un des pays qui vaccine le moins. Et il n'y a pas eu autant de polémiques. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a eu des signaux et des messages contradictoires envoyés par nos gouvernements et qui ont peut-être semé le trouble dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ça n'a pas aidé. Il faut essayer d'analyser la situation et de se dire que, certes, il faut peut-être prendre ce risque-là pour en éviter d'autres. Donc, il est important de pouvoir protéger, se protéger, protéger les siens. S'il faut prendre ce risque, moi, j'ai préféré le faire. Demain, si je contamine mes proches ou quoi que ce soit, que je n'en porte pas toute la responsabilité, je ne pourrai pas vivre avec. C'est quelque chose qui est en moi. Il est vrai que chacun peut trouver une réponse autre que ce que j'ai fait, mais pour moi, c'est quelque chose de responsable que d'essayer de protéger les autres. On ne peut pas vivre enfermé. L'humain n'est pas fait pour ça. On ne peut pas vivre sans se côtoyer les uns les autres. Donc, pour pouvoir vivre ensemble, et ben, il faut apprendre à respecter les autres. Et donc, cette liberté passe par ce vaccin, j'ai pris ce risque-là.
Je comprends que certains et certaines d'entre nous n'aient aucune confiance parce que, effectivement, la non-gestion du gouvernement Macron, en l'occurrence, a été complètement stupide, inique, brutale, antipédagogique au possible. Souvenons-nous qu'effectivement, au début de l'épidémie, on nous a dit, par exemple, que les masques ne servaient à rien. Et puis après, on nous a dit, mais si, mettez-en. Mais en fait, il n'y en avait pas. Après, on nous a dit, vous pouvez aller attraper la Covid à le Roi Merlin ou à Monsieur Bricolage, mais pas dans les librairies, que finalement, une perceuse, c'est moins dangereux qu'un livre. Bon, à partir de ce moment-là, ça devenait un petit peu compliqué de reprocher aux gens de ne pas suivre des règles qui sont complètement iniques. Moi, je crois qu'entre autres choses, on paye aujourd'hui, avec la suspicion légitime des antivax, ces cafouillages du gouvernement. J'ajouterais à ça le fait que depuis le temps qu'on explique aux gens qu'une grille d'analyse marxiste, hein, c'est-à-dire le capital, le salariat, les exploiteurs, les exploités, les riches, les pauvres, c'est pas bien de voir le monde comme ça. Donc quand on n'a plus cette grille de lecture-là de la société, qu'est-ce qui reste en fait? Il reste de la colère, mais sans explication. Et finalement, je trouve que effectivement les gens ont raison d'être en colère, mais il me semble qu'ils ne comprennent plus contre quoi ils doivent se mettre en colère.
C'est vrai que les messages du gouvernement au début de cette pandémie ont été complètement... Mon sentiment, c'est qu'on a fait vraiment une gestion de la crise sanitaire, non pas pour protéger les gens, mais en fonction surtout des moyens que l'on avait pour protéger les gens. Donc c'est pour ça qu'on a pu entendre le masque, c'est pas nécessaire, et puis 2 mois après, il était obligatoire. Quelque part, ça plonge dans l'inconnu, parce qu'on sait plus qui écouter, qui croire. C'est compliqué pour pouvoir vraiment se faire une idée correcte de ce que l'on doit mettre en place pour se protéger les autres. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. On a eu cette solution du vaccin qui est arrivé. Ça a été difficile de le mettre en place parce que c'est pareil, on a eu des commentaires sur tout n'importe quoi, comme quoi vous alliez choper la 5G avec le vaccin si vous faisiez vacciner et tout ça. Il y a un moment où, pour essayer de discréditer quelque chose, on est capable de dire tout et son contraire aussi. Certes, le message de nos gouvernements n'était pas clair, et il ne l'est peut-être pas encore, de toute façon, quand on voit ce qui se passe avec le pass sanitaire, mais le message des antivax ne l'est pas plus.
Il y a un message gouvernemental qui passe sous forme de spot sur les radios d'État, qui dit « En réanimation, 8 personnes sur 10 atteintes du Covid ne sont pas vaccinées. » Et je me suis pris dans la gueule. « Ah bon, tu crois les messages de l'État, toi, maintenant ? Mais t'es devenu un petit soldat de Macron, toi qui es vacciné. Et... Alors toi qui es infirmière urgentiste, ce fameux spot gouvernemental disant que 8 personnes infectées du Covid en service de réanimation ne sont pas vaccinées. Est-ce que toi, tu as pu le constater dans ton quotidien de travail ?
Alors, en effet, on s'aperçoit que bon nombre de patients que l'on retrouve infectés par le Covid n'ont pas eu un schéma vaccinal complet. Soit ils sont en cours de vaccination, soit ils n'ont pas eu du tout de vaccin. Bien loin de moi d'être pro-gouvernemental, mais franchement, la réalité du terrain fait qu'on ne peut que porter foi à ces propos. Et il est vrai que en ce moment, la majeure partie des patients qui se retrouvent à l'hôpital et en réanimation sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Malgré tout, on a aussi des gens qui sont vaccinés, qui ont aussi la double vaccination, qui se retrouvent en malades et en réa. Souvent, ces personnes-là ont aussi d'autres facteurs de pathologie à côté qui font qu'ils sont peut-être un petit peu plus sensibles au virus que les autres. Mais le message principal, c'est quand même de dire que le vaccin empêche quand même de se retrouver en réa, même si on est malade. Et c'est ça qu'il faut garder vraiment à l'esprit. Pour tous ceux qui disent « Ouais, un vaccin, c'est pas ce qu'il y a dedans et tout ça, on chope la 5G ou quoi que ce soit », pour tous ceux qui sont en train de se prendre une petite cigarette après manger. Vous savez pas ce qu'il y a dans vos clopes. Ça change rien au fait que vous allez fumer et que vous allez même revendiquer le droit de fumer. Vous savez pas trop ce que va engendrer votre consommation de pinards. C'est pas non plus tellement sain pour la santé.
Vous conduisez des voitures aussi.
Ouais, c'est ça. Et vous sortez de votre lit aussi. Ça peut être très dangereux de sortir de son lit. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer dans l'escalier. Donc voilà, on peut pas vivre sans risque. Il faut savoir mesurer le risque. Et en ce moment, ben, mesurer le risque de choper le Covid pour se protéger, c'est se vacciner, quoi. Alors, ça me fait chier, hein. Je vais dire, franchement, je suis un peu vulgaire sur le coup, mais ça me fait chier d'avoir ce discours un petit peu macroniste de dire faut se faire vacciner pour protéger les autres. Mais là, c'est l'infirmière qui parle et j'ai pas du tout envie de voir des gens que j'aime à l'hosto parce qu'ils sont contaminés par ce Covid.
Alors, le jour, un type médecin à la retraite disait, mais les vaccinés, eux aussi, peuvent transmettre le virus.
Oui, c'est vrai. On peut transmettre le virus, mais pas de la même façon. On va transmettre quelque chose qui va être moins virulent. On est moins contagieux, beaucoup moins contagieux. Donc, on a beaucoup moins de risques de contaminer quelqu'un. On a beaucoup moins de risques de se faire contaminer et beaucoup moins de risques de contaminer quelqu'un. Et si on contamine quelqu'un, le virus sera beaucoup moins virulent. C'est pour ça que ce vaccin est un petit peu controversé. C'est assez embêtant de dire, ouais, je suis vaccinée, mais en même temps, je peux contaminer les gens. C'est pour ça qu'on porte encore le masque. C'est pour ça qu'on met encore en place les gestes barrières. C'est la raison à tout ce qui est mis en place en ce moment. Donc, se laver les mains, c'est la première chose à faire. Porter le masque, c'est pour éviter de se postillonner au visage. Et ça va quand même faire que ce virus sera beaucoup moins propagé. Et on pourra, à ce moment-là, endiguer la contamination et faire en sorte que ce virus meure de lui-même. Un virus, s'il n'a pas de porteur, il ne va pas se propager. Donc si on peut éviter de devenir porteur, c'est comme ça qu'on va réussir à s'en débarrasser. Alors, on va parler un petit peu actualité, hein. On voit bien qu'il y a les variants qui arrivent et tout ça. C'est justement cette proportion du virus à muter pour pouvoir essayer de résister. S'il y a un maximum de gens qui sont vaccinés, ce virus, eh ben, même s'il mute, il pourra plus se propager. Il pourra plus passer d'une personne à l'autre. Donc la vaccination, elle est importante, mais elle serait encore plus efficace si tout le monde pouvait se faire vacciner.
Bien entendu, cette solution n'est probablement pas idéale. Enfin, même n'y connaissant rien, l'autre fois, ça m'arrivait sur le marché d'avoir une discussion qui chauffait un peu, que j'ai conclu quand même en disant, écoute, le fait est que là, on est en train de s'engueuler dans l'espace public, alors qu'il y a encore quelques mois, on était en prison chez nous. C'est bien parce qu'il y a des cons dans mon genre qui se font vacciner pour faire en sorte qu'on puisse reprendre un semblant de vie normale. Après, j'ai jamais dit que c'était une solution idéale. Il faut dire aussi, par honnêteté intellectuelle, pour en avoir parlé avec pas mal d'amis, femmes, il semblerait que chez nombre de femmes, ça perturbe les règles. Là, j'ai une copine qui m'a dit, j'ai eu deux cycles de règles dans le mois, dont la deuxième fois, c'était les chutes du Niagara. Elle m'a dit, mais c'est retombé sur ses pieds. Mais j'ai eu pas mal d'échos de règles perturbées suite aux injections.
Alors oui, comme tout médoc, hein. Je suis désolée, mais vous prenez un paracétamol, hein, ou tout simplement, vous prenez des risques pour votre foie. Ben, le vaccin, lui aussi, il peut avoir des effets indésirables. Moi, je sais que la deuxième injection, j'ai été crevée pendant une semaine. Pour ma troisième dose, je ne sais pas quel effet indésirable je pourrais avoir. Je dis bien je pourrais, parce que si ça se trouve, je vais strictement rien avoir. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur le cycle menstruel des femmes. Il apparaît qu'il y aurait un impact sur ce cycle. Ben, même s'il y a cet impact-là, je ne sais pas si je préfère pas ne pas avoir mes règles de façon très abondante plutôt que de me retrouver en réa. Si je crois que si, oui. Il y a bien à y réfléchir. Je préfère avoir deux cycles dans le mois plutôt que de me retrouver en réa. Alors après, il y a eu d'autres cas plus sévères en termes d'impact, hein. On a parlé de myocardite, c'est-à-dire une inflammation du muscle cardiaque, avec des risques bien plus importants. Mais ces cas-là, pour l'instant, sont relativement très à la marge. Faut en avoir conscience. C'est pas un geste anodin de dire je vais aller me faire vacciner. Je sais que j'ai un risque. Et aujourd'hui, Je pense que j'ai moins de risques à me faire vacciner qu'à choper le Covid, quoi. Donc, je ne peux qu'encourager les gens à y aller. D'autant plus que dès lors qu'on va être un maximum de vaccinés, on va pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Je dis bien semblant parce que tant que toute la population ne le sera pas, il faudra garder les gestes barrières, il faudra garder les masques, il faudra continuer à se laver les mains, mais ça, même en dehors du Covid, ça serait pas mal. Ça éviterait les gastro, ça éviterait la grippe, ça éviterait plein d'autres maladies qu'on se transmet tous les hivers, les uns après les autres. Mais il faut absolument arriver à pas penser qu'à soi, à penser aussi aux autres, parce qu'on vit les uns avec les autres et pas seulement les uns à côté des autres, quoi. Moi, j'ai envie demain de pouvoir continuer à embrasser mes enfants, continuer à embrasser ma mère. Pour ça, s'il faut passer par le vaccin, je préfère passer par le vaccin.
C'est compliqué, hein, les gens qui te disent oui, mais bon, c'est une question de choix personnel. Le fond de la question, c'est est-ce qu'on fait société ou pas ? Une fois de plus, j'ai jamais dit que ce vaccin était une solution idéale. Puis il y a aussi ce truc, en fait, que nous, depuis très longtemps, on vit dans une société où on veut où on vit un risque zéro. Faut que papa, État, nous garantissent qu'on est sûr et safe sur toute la ligne. Les risques, c'est pour les autres, c'est pour ceux qui traversent la Méditerranée sur des canots pneumatiques plus ou moins gonflés, ou la Manche. Eux, c'est normal. C'est des pauvres, c'est des noirs, c'est normal qu'ils aient droit au risque. Mais nous les blancs de l'île aux enfants, qui avons vécu dans la quiétude et sans guerre depuis toujours, d'un seul coup, la pensée qu'on puisse avoir un facteur risque dans nos vies semble insupportable à certains et certaines. Mais enfin bon, les risques, c'est pour tout le monde. Aussi. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des rares vertus de cette maladie, c'est de nous rappeler, on en parlait la semaine dernière, hein, le virus, lui, il s'en fout de la lutte des classes. Hein, il peut frapper un riche comme un pauvre, même si un riche, a priori, a plus de chances de s'en sortir qu'un pauvre. Même nos existences de privilégiés de la planète peuvent comporter des risques.
Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a jamais eu de risque zéro. Et aujourd'hui, on le voit bien. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Nous, notre génération, on n'a pas connu l'insécurité comme ont pu le connaître nos grands-parents ou nos parents, selon notre âge. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce risque est là. Et on ne peut pas l'occulter sous prétexte qu'on n'a pas envie de le voir, quoi. Il est là et il faut savoir essayer de la baisser, je vais dire, au maximum. Mais pour ça, il faut être conscient que si on ne fait pas ce qu'on peut pour la baisser, on n'y arrivera pas et il faut qu'on le fasse ensemble. Ouais, il faut qu'on fasse société, comme tu dis. C'est important qu'on puisse vivre les uns avec les autres et en respect des uns et des autres. Certains ont décidé de faire passer leur individualité avant le groupe et c'est un peu dommage. Puis je vais pas y revenir, le fait que l'hôpital ne puisse pas endiguer non plus une énième vague de Covid, mais le vaccin ne peut que nous aider à avoir moins de personnes à prendre en charge et c'est aussi aider la société, quoi.
Et une petite vague paranoïaque me saisit d'un seul coup. Moi, je te connais suffisamment pour t'avoir vu en manifestation pendant des années, représentante, je le rappelle, du syndicat Sud Santé Sociaux. Donc, je veux dire, ils sont drôlement habiles, le gouvernement ou Big Pharma, d'avoir réussi à te retourner. Mais certains auditeurs ou auditrices, finalement, pourraient légitimement se dire « Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'Anita n'est pas un valet du grand capital habilement déguisé ?»
Rions un peu, parce que là, franchement, non. Non, comme on le dit, non. Alors, au niveau du message syndical, je rappelle, anti-vax, non, mais anti-pass, oui. Nous, c'est le pass sanitaire que l'on combat. C'est ça, la vraie atteinte à nos libertés. Il est hors de question de dire que dans certains endroits, on chope le Covid et dans d'autres, on le chope pas. C'est un virus, c'est pas le nuage de Tchernobyl. Il s'arrête pas à la porte du café ou de la librairie ou du supermarché. Donc, faut arrêter de nous faire croire que parce que on est dans un supermarché ou dans un métro bondé à 8 heures du matin pour aller au boulot, on va pas choper le virus. Et alors que quand on va aller se prendre un petit café avec des copains en terrasse, on risque là de l'avoir, quoi. Ou quand on va au resto, on risque de choper le virus. C'est dommage parce que ce message-là, finalement, ne fait que renforcer l'idéologie complotiste, anti-vax que l'on peut subir aujourd'hui. Non, le virus, il est partout. Passe sanitaire ou pas passe sanitaire. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé ça effarant. J'ai été obligée, pour rentrer dans un bar, montrer mon passe sanitaire. À peine arrivée dans le bar, on m'a fait « Maintenant, vous pouvez enlever le masque ». Alors, je l'avais dans la rue parce qu'il fallait le mettre dans la rue, mais je rentre dans le bar et on... ça y est, le virus, il est resté à la porte, quoi. Et ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc, je comprends que ça puisse alimenter toute une idéologie complotiste de dire ce méchant gouvernement nous ment sur ce virus et tout ça.
Et il fait ça pour nous diviser.
Je les imaginais pas si malins et machiavéliques. Ouais. Moi, je pensais qu'ils faisaient juste que surfer sur les événements, mais en fait, c'était un plan de longue date élaboré dans un laboratoire secret en Chine où on tripote des pangolins suspects.
Les pauvres pangolins, de toute façon, ils s'en sont pris plein la tête. On ne les connaissait pas avant, maintenant, ils ont fait la une des journaux. Mais ça a bien clivé la société. Et pendant ce temps-là, bon, on avait perdu nos premiers objectifs, c'est de dire que ce qui se passait en ce moment au niveau gouvernemental et tout ça avait beaucoup plus d'impact en termes de liberté que ce fichu virus nous a enlevé. Donc, fallait pas attendre le Covid, on était déjà fliqués avant. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit tous ces réseaux complotistes, on ne fait que donner encore plus de légitimité à ce gouvernement de nous fliquer en mettant en place ce pass sanitaire notamment.
Alors c'est pas pour accabler les antivax et les gens qui se méfient, et une fois de plus je comprends la légitimité de la méfiance et de la suspicion, moi aussi d'ailleurs, hein. Puis ils sont mis à parler de Spoutnik et machin, et comme tout le monde je me suis dit, oh là là, je vais attendre un petit peu avant de me faire vacciner, voir ce que ça fait aux autres. Ma deuxième injection, je l'ai faite à la fin de l'été. J'ai un petit peu attendu de voir. On n'avait pas de recul. Probablement qu'on en a toujours aussi peu. Notre réflexion m'est venue, cela dit, le gouvernement, s'il n'y avait pas les antivax, aurait trouvé d'autres prétextes pour continuer et renforcer son flicage étatique, qui, tu le rappelais, ne date pas d'hier. Au demeurant, je suis assez en colère contre les antivax parce qu'ils fournissent un prétexte en béton armé pour nous imposer un flicage à coup de QR code.
Bien sûr, puisque étant donné que c'est très très clivant, et moi je l'ai vu là au niveau de l'obligation vaccinale chez les soignants, parce que c'est ce qui s'est passé. Cette obligation vaccinale a fait qu'il y a eu des débats, mais plus que houleux, à certains moments de la journée, notamment au changement d'équipe, au travail, quoi. Cette obligation vaccinale a créé des tensions, mais énormes. Mais en attendant, pendant ce temps-là, on parlait que du vaccin, et puis on parlait pas de la crise économique. Les migrants avaient presque disparu, d'ailleurs, même s'ils sont réapparus de façon très dramatique dernièrement. Mais voilà, il y a eu un moment où, pendant cette période de pandémie, là, on ne parlait que du Covid. Vous aviez le Covid à toutes les sauces possibles et imaginables. Ça faisait bien oublier tout le reste, cette précarité sociale qu'on nous imposait. Tout ça est tombé à bon escient pour notre gouvernement. Et puis, aujourd'hui, on a aussi tous ces courants politiques qui vont nous fliquer un petit peu plus sous le prétexte fallacieux de nous rendre une société plus sécuritaire et sécurisante. Faut pas laisser faire, quoi. Il y a un moment où il faut arriver à raisonner en termes d'individus responsables. Il faut savoir prendre soin de soi-même et soin des autres. Je suis encore dans le soin. Je suis désolée, je suis infirmière. Et puis il y a un moment où faut essayer de prendre assez de risques pour soi-même, pour pouvoir protéger les siens et se protéger soi-même, tout en essayant de garder un maximum sa liberté. Garder sa liberté, c'est aussi lutter contre cet aspect sécuritaire. C'est ça le vrai combat, et il faudrait pas l'oublier. On essaie de nous dire que c'est sécurisant d'avoir moins de liberté. C'est quand même un petit peu con de se dire ça, de dire on va accepter volontairement de dire on a moins de liberté pour pouvoir se sentir en sécurité, mais autant aller vivre en prison, hein. C'est une super sécurité, on prend les décisions pour vous, on pense pour vous, on fait tout pour vous, et puis c'est tout, quoi. Moi j'ai envie de continuer dire ma colère, j'ai envie d'aller manifester si j'en éprouve la nécessité. J'ai envie d'aller prendre un café en terrasse sans avoir à montrer un QR code. J'ai envie demain de pas être obligée de me faire tatouer un code barre pour dire voilà, excusez-moi, mais j'ai eu mes 3 doses de vaccin. Voilà. J'ai pas envie d'avoir à prouver que je suis vaccinée. J'ai pas envie d'être moins libre. C'est ce combat-là qu'il faut mener. Faut pas se tromper de combat. La santé n'a pas de prix. Il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir la préserver. Si ça passe par le vaccin, bah, j'en accepte les conséquences. Ma santé n'a pas besoin qu'on me bride en termes de liberté.
J'entends aussi beaucoup, alors là on revient sur les délires complotistos, je sais pas quoi, complot, des labos, Big Pharma, machin. Attendez, faites un petit peu d'histoire. Les laboratoires pharmaceutiques s'engraissent sur le dos des contribuables depuis la création de la Sécurité sociale en 1946. Ça n'a rien de nouveau. Puis le deuxième truc, j'entends aussi beaucoup de gens, le flicage, jetez vos cartes bleues, fermez vos comptes Facebook, vos téléphones portables et vos ordinateurs, vous les mettez au fond des toilettes aussi, quoique non, ça pollue, détruisez-les autrement, et puis n'oubliez pas de déchirer vos passeports biométriques. Puis là, on pourra parler de flicage. Ah oui, mais ça, c'est un flicage que vous n'avez pas choisi. Oh, ça, c'est embêtant. Mais les autres, sinon, vous en faites quoi?
On est fliqués tous les jours depuis des années. Dès lors que vous allumez votre portable, vous faites une recherche sur Internet, vous avez 1 million de pubs qui arrivent sur la recherche que vous venez de faire. Faut pouvoir faire l'analyse de ce qu'on est capable d'accepter ou pas. Faut pas se mettre en colère contre quelque chose qu'on nous impose juste parce qu'on nous l'impose. Faut pas non plus réagir en tant qu'enfant gâté, quoi. Juste parce que on m'impose quelque chose, je vais dire non. Sans analyse, sans raison légitime ou quoi que ce soit, moi j'ai cette impression que juste parce que on nous impose un vaccin, il faut dire non. Je rappelle que notre pays, on a plein de vaccinations obligatoires. Et celles-ci, on les accepte. On accepte la vaccination contre le tétanos. On accepte toutes ces vaccinations type le ROR aussi, rougeole, oreillon, rubéole. Parce qu'on a compris que, ben, avec ce vaccin, finalement, nos mômes, ils sont protégés contre certains virus et on les empêche d'être malades et puis on empêche ce virus de se propager encore plus. Il y a certaines pathologies qui, grâce à certains vaccins, avaient complètement été éradiquées. Je pense à la tuberculose, même si ça revient parce qu'il y a une telle précarité dans certains quartiers ou quoi que ce soit et que ces pathologies reviennent. Mais le vaccin BCG, jusqu'à peu de temps, il était encore obligatoire, il ne l'est plus. Il y a des chances qu'il redevienne obligatoire à un moment ou à un autre.
La tuberculose, c'est un bon exemple. C'est une maladie de la pauvreté et de la précarité. La tuberculose, c'est le mal logement, une mauvaise alimentation, pas de chauffage. Pareil, la tuberculose, elle s'en fiche que tu sois riche ou que tu sois pauvre. C'est-à-dire que tu peux la choper quand t'es pauvre, mais tu peux la refourguer à un riche, la tuberculose. Elle s'en fout de la lutte des classes, la tuberculose.
Exactement, donc c'est pour ça, il faut arriver à prendre assez de recul sur ce vaccin et dire que un vaccin n'a pas forcément vocation à vous nuire. Même si, je vais pas enlever quand même ce côté où il peut y avoir des effets indésirables. Mais tout traitement peut avoir... Vous prenez des antibiotiques, je suis désolée, mais vous pouvez très bien faire une allergie à un antibiotique. Qu'importe ce que vous faites dans votre vie, vous prenez un risque. Dès lors que vous avez pris une décision, vous prenez un risque. Donc, faut arrêter de penser que parce que vous ne vous faites pas vacciner, vous n'allez pas prendre le risque du vaccin, mais vous allez prendre le risque de choper le Covid. Donc, quelque part, vous avez pris un risque aussi. En revanche, ne le faites pas courir forcément aux autres, quoi. C'est surtout ça, le truc.
Ou alors, faut assumer jusqu'au bout et aller vivre au fond des bois, dans une cabane, en voyant personne.
Oui, faut complètement s'isoler du monde. Je ne le conseille pas non plus, parce que là, vous prenez le risque de devenir complètement cinglé. Donc, voilà. Chaque décision entraîne un risque à prendre. Faut le prendre en toute intelligence. Alors... J'entends déjà les gens dire, mais qu'est-ce qu'elle est, elle, pour me dire qu'il faut que j'aille me faire vacciner et tout. Je suis personne. Je suis juste une infirmière. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, je vois des gens qui souffrent aujourd'hui, qui ont perdu des proches, qui ont perdu des amis, qui ont perdu des parents parce que ne voulaient pas se faire vacciner. Et c'est bien dommage parce que c'est quand il est trop tard qu'on s'aperçoit qu'on aurait peut-être dû le faire. Mais, toute cette souffrance qu'on peut s'infliger parce qu'on se coupe du monde, parce qu'on n'est pas vacciné, cette souffrance qu'on s'inflige parce qu'on se coupe du monde aussi, parce qu'on ne veut pas transmettre ce virus. C'est une souffrance, oui, pour moi c'est une souffrance. J'ai été pendant des semaines, avant le vaccin, où je m'interdisais de faire des choses en famille parce qu'il fallait être sécure, il fallait ne pas faire courir de risques. Enfin, le moins possible à mes proches. Aujourd'hui, le vaccin, quelque part, m'a permis de pouvoir me sentir un peu plus safe, quoi, tout simplement. Je peux de nouveau rencontrer les miens, même si, tout en gardant les gestes barrières, hein, je préfère insister là-dessus. Et ça me permet de pouvoir avoir de nouveau une vie sociale. Et c'est peut-être ça la plus grande liberté.
Une fille que je connais qui réalise des tests de dépistage Covid m'expliquait l'autre fois que deux personnes vaccinées n'ont a priori aucun risque de se contaminer l'une l'autre. Beaucoup moins de risques.
Voilà, j'allais dire beaucoup moins de risques. Quand vous êtes vacciné, votre corps va apprendre à se défendre contre ce virus et donc va le combattre. Donc forcément, vous avez ce qu'on appelle une charge virale qui est beaucoup moins importante. Donc un risque de pratiquement pas contaminer les autres. Même s'il est, c'est pas un risque zéro, mais de ne pas contaminer les autres. Donc forcément, quand vous êtes à plusieurs dans la même pièce et vous êtes tous vaccinés, il y a très 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 peu de risques de ressortir là malade. Alors que quand vous êtes non vacciné, la charge virale va être beaucoup plus importante, ne serait-ce que juste en éternuant, vous propagez énormément de virus autour de vous. Vous êtes seul, par exemple, vous éternuez sur... vous avez oublié de mettre la main devant votre bouche, ce qui arrive encore malheureusement fréquemment. Hein. Moi, j'ai vu des gens enlever le masque pour éternuer, ce qui est quand même assez stupide. Donc, ce qui est bien qu'on dépose du virus sur des matières mortes, mais sur une table, et la personne qui vient derrière va pouvoir le rechoper tout simplement en mettant la main sur ce paquet de céréales ou n'importe quoi, en se portant la main au visage derrière, quoi, sans savoir qu'il se contamine. C'est pour ça que le vaccin a cette importance, au moins, même s'il y a encore un petit peu de virus, il y en a beaucoup moins, et ben, le fait qu'il y en ait beaucoup moins, on a beaucoup moins de risques de contaminer les autres.
Tu disais à l'instant, là, qui suis-je pour donner mon avis, machin, je ne suis qu'une infirmière. Enfin, c'est que t'es quand même une infirmière urgentiste. Des gens qui manquent de crever, voire même qui galanchent, bah, t'en as vu passer, t'en vois passer. T'es là parce que t'es en première ligne, quand même. Et ton avis vaut bien celui des autres.
Oui, c'est vrai. Par rapport à ceux qui pourraient dire que ce virus n'existe pas, moi, je le vois tous les jours. Donc, j'ai vécu avec, au niveau du premier confinement, avec cette peur au ventre de me retrouver contaminée ou de contaminer mes proches, hein, au point de dire je fais chambre à part avec mon conjoint, je ne mange pas avec le reste de ma famille pour pouvoir les protéger.
Tu disais même les premiers temps, quand on n'était pas trop au courant du mode de contamination, tu sortais du boulot, tu te changeais dans le garage, tu mettais directement tes fringues dans la machine à laver, t'en mettais des neufs, t'allais prendre ta douche, ou le contraire.
Et on devient complètement parano, quoi, de dire on pourrait contaminer quelqu'un. Donc je vais pas dire que j'ai été me faire vacciner avec une grosse joie, hein, c'est parce que je préfère être du bon côté de l'aiguille. Je préfère faire les injections plutôt que les recevoir, de toute façon. Mais quelque part, j'y ai vu une petite libération, quoi. Parce que cette paranoïa-là, cette charge mentale supplémentaire, fait que ça m'a libérée d'être vaccinée, tout simplement. Quand je vois ce que peut donner ce virus, quand on sait toutes les implications qu'a généré cette propagation au sein de nos sociétés en termes de relations sociales. Je rappelle que quand on est hospitalisé aujourd'hui, on limite les visites. Les gens qui auraient besoin d'avoir de la famille à côté d'eux ne peuvent pas l'avoir comme ils le souhaitent parce que, eh ben, il faut limiter les visites au niveau de l'hôpital et tout ça. C'est quand même quelque chose qui peut être bien de pouvoir se sentir un peu plus en sécurité, c'est dommage de dire ce mot-là, mais d'être un peu plus en sécurité avec un vaccin, même si ça veut dire prendre un petit peu de risque.
Anita, je te remercie pour cette conversation à bâton rompu. Vous l'aurez peut-être senti, les amis, Anita travaille de nuit et là je sens que t'as un gros coup de barre qui est en train de te tomber dessus. Une fois de plus, merci à toi et à tes collègues d'être sur le pont avec autant de fidélité et d'engagement. Je trouve que c'est plus rassurant de faire société en sachant que bah, y a des gens comme toi qui sont là, voilà, encore aux urgences, prêts éventuellement à sauver ma vie et celle de ceux que j'aime, et puis des autres aussi, si il y en a besoin. Merci beaucoup.
Merci à toi, et puis ben, j'espère que les personnes qui vont pouvoir écouter ce message vont pouvoir réfléchir à ce que l'on vit actuellement et prendre les décisions, pas dire qui s'imposent, mais des bonnes décisions.
À bientôt, Anita.
À bientôt.
Pas aux urgences, j'espère, hein, plutôt non. Dans la rue.
Dans la rue ou encore autour d'un café, ça je veux bien.
Mais encore mieux. La suite, c'est avec Marc et Charlie que vous avez déjà entendu dans cette émission. Charlie est infirmier en psychiatrie, Marc, éducateur spécialisé. Tous deux invités à ce micro en tant que membres du syndicat Sud Santé Sociaux Solidaires, exercice difficile à tenir, et vous allez voir pourquoi, juste après les goguettes.
On reconfine le territoire, c'est la Covid qui redémarre. Et oui, le virus a muté, il joue au foot et boit du thé. Tout le monde en télétravail pour pas que l'économie déraille.
Avec ses enfants dans les pattes,
en plus on révisera les maths. C'est très simple dans le commerce, tout est ouvert ou presque. Suffit de lire le troisième tiré, deuxième alinéa, petit b du grand 3 de l'article 34 du décret.
Personne dans les musées, c'est beaucoup trop risqué. Ces lieux où l'on fait la bamboche, oui c'est incontestable. Les gens se mettent minables devant des tableaux de Jérôme Bosch.
Pour éviter un désastre, faut aussi fermer les théâtres, car le virus se met en colère sitôt qu'on déclame du Molière.
Rester chez soi en vacances, c'est ce qu'il y a de mieux quand on y pense.
On n'a pas à faire ses bagages, on évite les embouteillages.
Sur les vaccinations, on est presque aussi bon qu'à l'Eurovision chaque année. Et si ça sert à rien, pour le variant brésilien, il y aura Zidane pour nous sauver.
La Covid, 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 la Covid.
On en a carrément marre de la Covid qui redémarre. Nos souvenirs commencent à être vagues de la vie d'avant la première vague. Rendez-nous le monde d'avant, d'avant le virus et ses variants. Et s'il doit n'en rester plus qu'un, ce soit le variant jamaïcain.
Salut Charlie.
Bonjour tout le monde.
Salut Marc.
Salut.
J'ai trouvé intéressant, pour compléter la parole d'Anita, de vous inviter, Marc et Charlie, là, de manière entre guillemets plus officielle, fermer les guillemets, parce que bah, depuis le temps qu'on fait des manifs, qu'on fait des émissions de radio ensemble, on est devenus des copains. C'est aussi en tant que représentant du syndicat Sud Santé Sociaux Solidaires que je vous ai convié aujourd'hui. Et peut-être partir de ce tract que j'ai vu cet été, anti-pass, oui, anti-vax, non. Marc.
Le tract, ce qui était écrit, c'était contre le pass pour la vax.
Charlie, peut-être que cet entretien-là va pas être très facile. Je te demande de rester dans une position officielle, Sud Santé Sociaux Solidaires, comme s'il n'y avait qu'une seule pensée à Sud. Or, par culture, c'est pas la façon dont vous fonctionnez. L'exercice va être délicat pour toi et pour Marc aussi. l'être humain va s'exprimer, en fait.
Alors, il y a ça, et puis il y a aussi que, en plus du fait que à Sud Santé Sociaux et à Solidaires, il y a beaucoup de débats, et puis des fois, on réfléchit et on change. Là, avec ces histoires de passe sanitaire et de vaccination, on a été au cœur d'une des périodes les plus complexes à notre niveau pour mettre en place une pensée claire, rationnelle, consensuelle au sein des organisations, et que ça a beaucoup discuté, comme je pense ça a discuté absolument partout. Autant sur certains sujets, le consensus arrive à se faire rapidement ou même dès le début, autant là, on a été traversé par des contradictions et des désaccords qui peuvent aujourd'hui ne pas encore être tranchés entre tout le monde. Les rapports à la vaccination, comme partout, il y a des camarades qui n'y voient aucun inconvénient, il y a des camarades qui sont plutôt opposés a posteriori, a priori. Donc ça, ça a créé des nombreuses discussions et on n'en est toujours pas sorti.
Et toi, t'es vacciné ?
Étant infirmier à l'hôpital, si j'étais pas vacciné à l'heure actuelle, je serais suspendu. Donc oui, moi je suis vacciné.
Marc ?
Le tract contre le pass pour la vax. Comme effectivement, on était quelques camarades qu'on a vu un petit peu quand ça se profilait les samedis, là, on s'est dit quand même que nous, syndicalement, en tout cas, on devait y être. Et puis on avait des choses à dire. Qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient. Ce qu'était la question de santé publique, donc le Covid, et on va dire tout ce qui était à côté politique politicienne, par exemple la question du pass sanitaire, et mélanger question de santé publique, politique politicienne, et puis aussi incertitude de beaucoup de gens, notamment par rapport à la vaccination. C'est vrai que quand on mélange tout ça ensemble, ça donne un gros bordel qui est pas très clair. En tout cas, les premières fois, on y allait, on diffuse notre tract, prend une position, et puis on voit aussi un petit peu est-ce que ça crée du débat ou non. Pour le coup, en fait, ça en a créé. Pour le coup, même chez nous, entre militants et militantes, on écrit ça à quelques-uns, quelques-unes, mais après, c'est une période de vacances aussi. Quelques semaines après, du coup, il y a des militants qui sont revenus vers nous pour nous dire que dans tout le contenu qu'on avait écrit, il fallait forcément qu'on en discute parce que il y avait des débats à avoir, notamment sur des accords, histoire d'éclaircir un petit peu nos positions.
Les manifs du samedi, je comprends, les copains, les anarcho-libertaires, gilets jaunes de gauche, etc., que je connais, que j'ai vu dans ces manifs du samedi, mais moi, j'y suis pas allé parce que ça me donne une impression de bouillasse, en fait, où tout le monde vient un peu exprimer sa petite colère, qui a peut-être pas forcément rapport avec celle du voisin. Les limites de l'entre-soi, j'estime qu'on les a, et c'est très bien, beaucoup repoussées pendant les gilets jaunes. Mais là, certes, il y a les copains anarcho, je sais pas quoi, dans les cortèges du samedi, mais il y a aussi du crâne rasé, de la fleur de lys et de la manif pour tous, quoi. Je trouvais pas ça clair.
Ce que tu dis là sur la clarté, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup préoccupé, puisque l'analyse, on l'a fait nous très rapidement, que en prenant une position contre le pass sanitaire, parce que nous, sur nos bases, c'était une nouvelle avancée autoritaire, une nouvelle poussée de l'État policier qui peut nous fliquer, qui peut nous imposer, que nous, notre critique, elle pouvait être amalgamée aux contestations anti-pass, libertariennes, à savoir nous, il faut rien nous imposer, on veut pas de contrôle, on veut pouvoir faire ce qu'on veut, donc est vraiment la position individualiste poussée à l'extrême. Et donc, ce qu'on a voulu clarifier, c'était quelle était la raison pour laquelle on contestait le pass sanitaire. Le mot d'ordre qui était de dire non au pass, oui à la vax, c'était pour dire qu'on était tout à fait en accord pour qu'il y ait des mesures de santé publique qui soient mises en place, mais qu'on gardait la possibilité de contester, et on le fait toujours aujourd'hui, la manière dont le gouvernement, dont l'État, dont Macron ont géré l'épidémie avec des ordres, des contre-ordres, de l'autoritarisme. On a tous beaucoup entendu parler du fait que Macron emmerde les non-vaccinés, mais c'est quand même l'aboutissement d'une politique à la fois qui fait tout et n'importe quoi et qui crée le désordre dans la tête des gens et qui en plus choisit une stratégie de division, d'humiliation et de contrainte, alors même que il y a quand même pas mal d'organisations ou de personnes qui auraient appelé à faire ça avec de la pédagogie, de l'explication, des discours scientifiques et rationnels et une stratégie qui ne change pas de direction et qui ne fait pas des demi-tours d'une semaine à l'autre, parce que c'est vraiment ça qui crée le fait de ne pas vouloir accepter parce qu'on ne comprend pas. Tout simplement, quand on ne comprend pas, ça limite largement les chances de pouvoir accepter, percevoir, comprendre et puis participer à des démarches collectives.
Marc,
pour le coup, moi là-dessus, j'ai des choses à dire, mais après, elle ne représente qu'un avis individuel, c'est-à-dire aucunement, du coup, ça n'engage le syndicat Sud. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans la période Macron, la manière dont il gère cette crise sanitaire, pour lui, il a fait un très bon coup politique. C'est-à-dire, avant le pass sanitaire, tout le monde s'accordait à dire, quel que soit le bord politique, en gros, que Macron, il gérait ça vraiment de manière plus qu'en dessous de terre. L'instauration du pass sanitaire, ça a été un coup tactique pour lui. Il a créé une fracture dans la société entre les gens vaccinés, entre les gens pas vaccinés. Si t'as pas un peu d'analyse politique de tout ça, du coup, t'es vacciné. Donc forcément, ça veut dire que t'adhères un petit peu à tout ce qui est mis en place par le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Et donc, quelque part, implicitement, que t'as rien contre Macron. Et par contre, t'es pas vacciné, du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il a opéré cette fracture dans la société qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus vraiment de lui. Sauf un peu sur ces gros coups médiatiques qu'on a dit effectivement qu'il faut emmerder les non-vaccinés. Mais encore une fois, ça c'est de la stratégie de politique politicienne. L'action de santé publique, au final, réellement, elle est mise vraiment très très loin, quoi, du coup. Et ça, par exemple, dans nos secteurs, que ce soit la santé ou le social, le médico-social, ça a été très bien illustré avec la question de l'obligation vaccinale, du coup, pour nous. Par exemple, moi je suis éducateur, je bosse avec des personnes handicapées. Ça veut dire que tous les collègues, du coup, si on ne se vaccinait pas, à un moment donné, plus de rémunération. Et là, encore une fois, je prends des schémas assez simples, même peut-être simplistes, mais hier, applaudi par tout le monde, donc on était les héros, les héroïnes et tout, un peu comme les camarades de la santé. Et puis par contre, aujourd'hui, quand la question de la vaccination se pose, forcément, politiquement, il faut un bouc émissaire, il faut des odieux responsables et irresponsables. C'est les personnes hier qu'on mettait en avant, par contre, qu'on va suspendre. Ils ne sont pas vaccinés, pas de vaccination, pas de salaire. Donc bon, à un moment donné, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas valider, quoi.
Pour illustrer le tort, le mal qu'a fait l'autoritarisme des politiques imposées là, pour soi-disant lutter contre la pandémie, la suspension des professionnels de la santé et du social non vaccinés, c'est un très bon exemple. On est parti d'une situation où il y avait une part des professionnels qui étaient opposés, pour tout un tas de raisons très complexes, se faire vacciner. Pendant toute la période avant le 15 septembre, 15 octobre, avant la période de suspension, on a été amené à parler avec une très grande quantité de collègues, parce qu'en gros, tous ceux qui étaient menacés par la suspension, qui ne voulaient pas, il y en a plein qui ont appelé les syndicats pour se renseigner, pour savoir ce qu'on pouvait faire et tout ça. Donc, on n'a pas fait d'études sociologiques, mais on a quand même parlé, eu le témoignage, eu des discussions avec de très nombreux collègues, suffisamment pour savoir que à chaque fois, c'était des histoires différentes, des positions différentes, des raisons différentes. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'avant même l'obligation vaccinale, il y avait déjà plein de collègues pour qui la vaccination, ça posait même pas question, il n'y avait pas de problème, ils allaient se faire vacciner, ça posait des questions, mais ça se résolvait tranquillement. Ce qu'on a vu avec cette obligation vaccinale, c'est qu'au lieu de laisser le temps aux gens, au lieu de laisser la possibilité à une toute petite partie, au final, de collègues qui se seraient pas fait vacciner, et que ça se passe finalement tranquillement, mais le vaccin n'était pas en mesure et n'est toujours pas en mesure d'éradiquer la maladie. Donc si on avait laissé les quelques pourcentages de collègues qui, pour des raisons, n'étaient pas prêts ou refusaient définitivement, qu'est-ce que ça aurait fait ? Rien, en fait. Ça aurait rien fait. Il y aurait eu un tout petit pourcentage de collègues qui auraient été opposés, rétifs et tout ça. Ça se trouve, ils avaient juste besoin de temps. Il y avait beaucoup de collègues qui nous disaient « Moi, je ne me ferai pas vacciner tant qu'il n'y aura pas la mise d'autorisation sur le marché, stade 3, enfin voilà, on n'en était qu'au stade 2, tout ça. » Ça y est, le stade 3, il est arrivé depuis plusieurs mois. Ça se trouve, ces collègues-là, ils auraient fini par accepter. Et il y a plein de collègues qui voulaient dire « Mais moi, je veux avoir du recul, je veux savoir, ça se trouve, c'est dangereux. » Bon, si on laisse faire la science et si on laisse faire les chercheurs, et puis si on n'est pas dans l'hystérisation de la pensée, on laisse quelques semaines, on laisse quelques mois, on attend qu'il y ait des milliards de vaccinations pour voir qu'il n'y a pas des millions de morts. Et puis peut-être que ces collègues-là auraient fait leur cheminement et auraient fini par se faire vacciner. C'est pas le choix qui a été fait. C'est là où on revient sur ce que Marc a dit. Il y a eu un choix d'une violence extrême de faire de la division, de faire de l'ostracisation, de mettre au banc une partie des collègues, de faire de la violence sociale, de faire du tri et de venir stigmatiser. Et ça, il est impossible de pouvoir dire honnêtement que c'est une stratégie qui vise à gérer au mieux la pandémie. C'était un coup politique. C'est de la violence sociale qui a été rajoutée à la violence épidémique. On a voulu imposer des croyances, alors même que les croyances, c'est une des choses sûrement les plus difficiles à bouger. Et c'est sûrement pas avec un pistolet sur la tempe qu'on change la croyance des gens. En tout cas, nous, on est persuadés que c'est pas comme ça qu'il aurait fallu gérer l'épidémie.
Comme ça fait des décennies que les gouvernements successifs ferment des lits d'hôpitaux, suppriment des postes dans les hôpitaux, et ben on en arrive à faut trier les gens. Peut-être ne réserver les lits qu'à ceux qu'on est sûr qu'on va pouvoir guérir, puis finalement laisser crever les autres, quoi. Il y a une espèce d'eugénisme social là qui se distille dans les têtes via France Intox et autres médias dominants. Ça devient normal en fait de réfléchir comme ça. Je trouve ça terrifiant. L'un des vrais problèmes, c'est que notre hôpital public, il était déjà moribond avant cette pandémie et que le gouvernement a continué à fermer des lits, sucrer des postes. Anita nous disait, nous confirmait, parce qu'elle, elle est en première ligne en tant qu'infirmière urgentiste, en soins réanimatoires, l'essentiel des gens malades qui sont là sont des non-vaccinés. Bah, il n'y a pas assez de lits et le vrai problème, en fait, c'est que les pouvoirs qui défilent continuent à démolir notre hôpital. Bah, notre hôpital, il ne peut plus accueillir tout le monde par la volonté gouvernementale. Dans leur soi-disant ou simili-stratégie, il y a finalement, effectivement, montrer du doigt les antivax comme des boucs émissaires et leur dire, bah, en fait, si c'est la merde, c'est pas parce que les gouvernements ferment des lits, c'est à cause de ces vilains antivax qui nous emmerdent.
Justement, là, aujourd'hui, à Tours, il y avait aussi ce matin, là, la mobilisation des collègues de l'éducation sur la question des protocoles sanitaires.
On est le jeudi 13 janvier 2022, au moment où on se parle, là.
Que ce soit l'éducation ou bien la santé, c'est la question aussi de la casse du service public. Si effectivement, depuis des décennies, et même plus, l'hôpital n'était pas attaqué, qu'il y avait des moyens aujourd'hui en masse, alors la question du manque de lits en réa se poserait pas, le débat serait certainement pas le même, mais c'est bien parce qu'à un moment donné, il manque des moyens, que la question du Covid, du coup, est problématique à l'hôpital. Le Covid, c'est un symptôme, ça met le doigt sur un état qui était déjà désastreux.
L'hôpital public, comme tous les services publics, normalement, leur devoir, ça serait de pouvoir s'adapter aux besoins de la population, aux besoins en termes de santé, les besoins en termes éducatifs. Et la politique austéritaire, le fait de dire il faut réduire les services publics toujours et encore, et surtout il faut pas les financer, ça inverse la situation. Et en fait, on demande à la société à s'adapter aux limites du service public et à la diminution des moyens encore et toujours. Une des grandes arnaques de Macron, là, sa phrase d'ailleurs, on va s'en souvenir, c'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ça a été rien du tout, un effet d'annonce. On fait un trou dans les budgets de l'État, de toute façon qu'on nous fera payer plus tard par de nouvelles privatisations, par de nouvelles diminutions de budget, alors que il n'a jamais été question de réaugmenter, par exemple, massivement le financement de la santé, de la sécurité sociale, je le rappelle, par le biais notamment des cotisations sur les salaires, donc augmenter par exemple le pourcentage des cotisations salariales et patronales qui financent la Sécu. C'est ça le vrai enjeu politique, c'est ça qu'il aurait fallu faire, pas dire des quoi qu'il en coûte et puis après faire des trous pour poser des rustines, mais bien vouloir dire on vit dans un monde où les moyens pour la santé, pour l'hôpital, les moyens pour l'accompagnement des personnes handicapées ou âgées, ça doit demander un effort, un développement massif. Quand on parle de développement massif, ça veut dire peut-être doubler, quadrupler les moyens en termes de professionnels, en termes de financement. Ça, l'État ne le veut pas. Il n'y a pas que l'État. Il y a les patrons aussi. Une des premières organisations qui refuse l'augmentation des salaires et donc qui refuse l'augmentation des cotisations, par exemple de sécurité sociale ou sur les retraites et tout ça, c'est les patrons. Bon, à chaque fois, ils expliquent les mêmes, c'est le coût du travail, tatati, si on fait ça, on s'en va et tout ça. Donc vraiment, si on veut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir financer massivement et sur la durée les services publics, et notamment les services publics de la santé, du social et du médico-social. Et ça ne passera que par un changement de politique qu'on pourrait juger peut-être révolutionnaire, de détourner une part encore plus massive de l'argent qui part dans la poche des patrons, des actionnaires, vers la sécurité sociale, une grande sécurité sociale pour des services publics de santé forts, pour aussi une éducation, un service d'éducation forte, pour des politiques publiques de santé publique. C'est ça qu'on a devant nous et il ne faut pas s'illusionner sur le fait que malgré toutes les annonces, malgré toutes les gesticulations, il n'y a absolument rien qui est fait. Et là, on voit déjà dans la manière dont le business reprend que rien n'a changé, voire même on va être face à des situations encore pires.
Et voilà les amis, c'est sur ces mots que s'achève cette spéciale anti-pass, oui, anti-vax, non. À réécouter sur notre site, polémique-c'est-la-voix-off.com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast de l'émission avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut!
Radio G. 101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences.